Sport intérieur avec Pierre-François de Béthune, une émission d'Olivier Germain-Thomas. Il en faut du courage, mon père, et de la foi et de l'espérance pour mener la vie d'abnégation qui est la vôtre. Mais le bonheur se voit dans vos yeux, et c'est déjà une réponse à mon étonnement fin. Pierre-François de Béthune, naissance en 1936 dans un château en Belgique, et assez vite, dans votre âme d'enfant, vous recevez l'expérience de la guerre et de la douleur, particulièrement à la fin de la guerre. Nous verrons s'il en reste des traces. À 19 ans, entré dans un monastère bénédictin, études à Rome, sacerdoce en 1962, puis 8 ans au Congo ex-belge, retour en Europe. À l'âge de 35 ans, vous découvrez le zen. C'est un tournant dans votre vie de moine. Vous allez vivre dans des temples du bouddhisme zen au Japon. Vous allez pratiquer le zazen, c'est-à-dire la méditation. Et plus tard, vous allez devenir responsable du dialogue interreligieux chez les moines d'Occident. De 1989 à 2005, c'est-à-dire pendant 16 ans, vous serez prieur, donc le supérieur de votre monastère de Clairland en Belgique, à Louvain-la-Neuve. Silence.
Et puis alors, providentiellement ou par hasard, comme vous voudrez, quelqu'un m'a un jour invité à aller voir une cérémonie du thé. J'ai été à tout hasard et ça m'a vraiment touché parce que je trouvais là comme une espèce de liturgie, mais très très intime, et beaucoup plus profonde que ce que je voyais dans le faste des liturgies romaines.
Oui, dans votre livre d'ailleurs, vous insistez sur le contraste entre ce qui se passe au Vatican, dans la solennité magnifique, exceptionnelle, les encens, les ors, et puis ce que vous avez vu dans cette petite pièce de la cérémonie du thé. Et on sent que vous penchez pour la simplicité.
Oui, oui. Là, ça a été vraiment une découverte qu'il y avait une autre dimension, qu'il fallait vraiment que je recommence un peu à nouveau dans la simplicité. Donc j'ai découvert la cérémonie du thé, mais une semaine après, la méditation. Ça s'est passé assez rapidement, et la méditation a vraiment été encore beaucoup plus profonde que la découverte de la cérémonie du thé, parce que la méditation zen, donc le zazen, la méditation silencieuse, a immédiatement ouvert des grandes profondeurs en moi. Au fond, j'étais peut-être prêt. Peut-être que les nombreuses années de préparation, noviciat, et l'abnégation d'une vie quand même un peu terne au Congo, et puis le choc de cette rupture, tout ça me préparait à pouvoir peut-être voir se défoncer quelques étages en dessous de moi, si on peut dire, et arriver à une certaine profondeur insoupçonnée. Mais cela m'a été rendu possible par la rencontre d'une pratique bouddhique. Et donc c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissant à cette tradition bouddhique, parce que peut-être que si je n'avais pas rencontré le zazen à cette période-là, j'aurais continué peut-être un peu à traîner la patte, ou j'aurais peut-être trouvé une méthode chrétienne qui m'aurait aidé aussi. Hein. Je ne veux pas dire que c'est le bouddhisme en tant que tel qui m'a permis tout. Mais il se trouve que c'est le bouddhisme qui m'a permis de sortir un peu de l'ornière.
En l'occurrence, mais ce que vous dites pourrait inquiéter certains chrétiens, de voir un moine ayant besoin de passer par la pratique d'une autre religion pour trouver une paix intérieure que apparemment il avait perdue à cause de ce qui s'était passé en Afrique.
Ce n'est pas vraiment la religion qui m'a touché, mais la méthode.
Les deux sont liés pour un bouddhiste.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais donc, j'ai découvert, justement, j'ai redécouvert des valeurs chrétiennes et des valeurs occidentales, notamment toute cette dimension de profondeur dont je parlais, mais également la vacuité ou le silence que je pratiquais quand même depuis longtemps. La nuit, enfin, toutes ces dimensions très profondes de la vie spirituelle, j'ai trouvé là, dans le zazen, une manière de les mettre en œuvre de façon beaucoup plus concrète et beaucoup plus immédiate. Et donc ça m'a permis vraiment un déblocage, si je peux m'exprimer ainsi.
Alors en parlant de vacuité, vous abordez un des problèmes les plus complexes dans le dialogue interreligieux, ou pour reprendre la formule de Panikkar, du père Panikkar qui préface votre ouvrage, intra-religieux, parce que c'est évident que c'est un des concepts, shunyata, vacuité en sanskrit, c'est un des concepts les plus difficiles à admettre pour un occidental ou pour un chrétien. Mais vous-même, dans votre ouvrage, Pierre-François de Béthune, vous créez des ponts avec le Shabbat, c'est-à-dire le moment où effectivement on se retire du monde extérieur pour être uniquement en communication avec Dieu et même avec la kénose, qui est une forme de prière orthodoxe.
C'est un fait qu'il y a dans la tradition chrétienne, et judéo-chrétienne plus exactement, une tradition de recours au silence, au shabbat, donc c'est-à-dire le rien faire. Cette tradition existe. Il y a dans la tradition spécifiquement chrétienne la kénose, qui veut dire donc l'anéantissement. Littéralement, il est dit que le Christ s'est anéanti. Et donc, il y a des éléments qui sont en quelque sorte des pierres d'attente, mais qui dans la tradition chrétienne avaient été un peu laissés de côté au profit d'une présentation beaucoup plus positive, où on parlait plutôt de plénitude, de réalisation, de plus en plus plénière du mystère, etc. Et le recours, plutôt, la rencontre avec le bouddhisme permet de redonner plus de consistance, je dirais, à cette tradition chrétienne un peu négligée, mais qui est celle des grands mystiques, depuis Denis, Eckhart, les Begin, jusqu'aujourd'hui. Il y a une tradition où justement les mystiques ont pu voir toute la valeur et toute la fécondité du silence et de la vacuité. Et les mystiques n'ont jamais été très très bien reconnus dans la tradition chrétienne, parce qu'ils étaient trop libres, ils risquaient de ne pas vraiment aider à ce que l'Église dirige tout. Mais maintenant, on les redécouvre et on est peut-être moins inhibé pour vraiment recevoir tout ce qu'ils ont apporté.
Mais quand un oriental parle de vacuité, enfin disons particulièrement un bouddhiste, parce que dans l'hindouisme c'est différent, quand un bouddhiste parle de vacuité, il n'y a aucune présence. La vacuité pour un chrétien est quand même de rester avec Dieu ou avec le Christ. Ou bien arrivez-vous à tout évacuer?
Il n'y a pas de détermination, il n'y a pas de volonté à évacuer, mais il y a simplement ce désir, cette joie, à se vider de toute préoccupation et de ne pas chercher, même pas à saisir quoi que ce soit de Dieu, mais cette disponibilité totale, cette ouverture, cette vacuité qui est une attente de la volonté de Dieu.
Voilà, mais, donc il y a quand même une présence.
Oui.
Mais vous venez de parler d'attente. Attente, présence, on est en proximité.
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas, là comme une anticipation de posséder quelque chose. Si cette vacuité est destinée à rester toujours vide, eh bien, c'est encore très bien.
Pour vous, elle reste vide ou il reste toujours la présence de Dieu dans cette vacuité?
Je ne crois pas que je puis nier que Dieu soit toujours présent, parce que forcément, quand on a été formé, on a ça dans les gènes, on a ça partout, et donc je ne peux pas dire que Dieu ne soit pas... Mais il n'est pas vécu, il n'est pas ressenti comme présent. Mais quelque part, peut-être, je sais qu'il est là, mais très silencieusement.
Pierre-François Béthune, vous allez donc vivre pendant 5 mois à Kyoto, à côté de Kyoto, à Mishima, donc près du mont Fuji. vous allez vivre une expérience dans un monastère zen, à la dure, puisqu'il s'agit de Naroshi, d'un maître que vous aviez rencontré avant, qui était un plus ou moins de vos amis, et puis m'arriver sur place, c'est comme si vous ne le connaissiez pas, et vous allez vivre vraiment à la dure, avec cette tradition qu'on trouve dans le zen et qu'on trouvait dans le chan en Chine, d'où vient le zen, avec cette tradition que lorsque un novice arrive, on lui donne des épreuves. Alors, quelles ont été vos premières épreuves quand vous, qui n'étiez plus un jeune homme, vous aviez déjà 35 ans et vous étiez moine, vous aviez toute votre solidité, eh bien, on va vous donner des tâches qui sont considérées comme chez nous, comme secondaires.
J'ai tenu à vivre dans un monastère zen parce que je me rendais compte que la pratique de la cérémonie du thé, la pratique de la méditation silencieuse, c'est très bien, mais le contexte est vraiment indispensable si on veut bien interpréter tout ça. Et étant moi-même, j'étais très curieux de voir ce qu'était le monachisme dans une autre tradition et de, non seulement de le voir en visitant un monastère comme ça, mais en vivant. Et donc j'ai eu heureusement la chance de rencontrer un maître qui était de passage en Europe, avec qui j'ai eu des bons contacts et qui m'a invité à venir chez lui. Et donc j'ai pu entrer vraiment dans la petite communauté, une trentaine de moines, qui font leur noviciat, on peut dire, parce qu'il y a 2-3 ans de formation avant qu'ils ne reçoivent une affectation plus cultuelle. Mais donc j'ai été introduit là, mais comme je pensais que j'allais avoir un traitement quand même un petit peu plus respectable, j'avais bientôt 40 ans, et je croyais que le maître, mon ami, allait me donner une bonne place. En réalité, il m'a mis à la toute dernière place, puisque j'étais le tout dernier venu. Et j'étais là parmi des gaillards d'une vingtaine d'années qui travaillaient dur et je traînais un petit peu. Parce qu'il faut savoir que dans les monastères zen, ce qui est le plus important, c'est le travail manuel. Ça, on ne sait pas. Quand on fait du zen ici en Europe, on s'assied en grand silence. Là, au Japon, oui, il y a 2-3 heures de silence par jour, mais c'est surtout beaucoup de travail. Un travail pour être vraiment éreinté. Et on ne lit pas. On ne lit pas, on n'étudie rien, on a lu avant peut-être, mais au monastère, on ne lit pas, on travaille. Et quand on est vraiment arrêté après une journée de travail, et qu'à 5-6 heures, après un bon bain collectif, on entre finalement dans la salle de méditation, à ce moment-là, on peut méditer vraiment en très grande paix. On n'est plus tenté de penser, de suivre des raisonnements, on est là tout simplement à coïncider avec sa respiration et on peut aller très vite en grande profondeur de silence. Mais la vie monastique zen comporte beaucoup de temps de travail, mais également, ça peut être un peu le style japonais, on vous pousse dans vos derniers retranchements. On essaie vraiment de casser en quelque sorte tout attachement à notre personne, à nos idées. Donc il y a vraiment une espèce de... On contredit et on humilie. Et je me disais chaque jour, bon, je vais tenir encore aujourd'hui, mais je ne sais pas si je pourrais tenir demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, je tiens le coup. Et ainsi, j'ai fait ça tous les jours. Parce que c'était vraiment assez difficile d'être toujours là, oui, parfois même insulté ou traité très mal. Mais finalement, je crois que c'était une bonne méthode, parce qu'il faut ça pour un peu prendre du recul et se dire, bon, après tout, ce n'est pas tellement important, ça durera le temps que ça durera, mais bon, je ne sais. Et pour relativiser cette petite misère, c'est une très bonne école.
Mais vous n'étiez pas prévenu. Vous ne saviez pas que ça se passait ainsi dans les monastères zen?
Non, pas vraiment. J'avais l'idée que c'était une vie qui serait très harmonieuse, très paisible, en communion avec la nature, où on faisait toutes les choses avec un rythme très très bien dominé. Alors qu'en fait, ce qui est très une des choses les plus difficiles, c'est que on a d'une part un rythme d'enfer où on court, il faut toujours courir, et puis on s'arrête et on attend, et il ne se passe plus rien. Et on reste des quarts d'heure et des quarts d'heure à attendre que peut-être finalement quelqu'un sonnera une cloche pour un autre exercice communautaire. Mais donc ce passage entre une fièvre et une espèce d'abouli ou une espèce de stase où on ne fait plus rien du tout, c'est très éprouvant parce qu'on aura envie de dire mais équilibrons les choses, faisons les choses calmement et puis on se repose un peu. Mais là, le contraste, donc on court partout, et puis maintenant, voilà, arrêtez, et surtout ne bougez pas, parce que peut-être que le maître va venir et il souhaitera vous voir. Donc restez ici, ne vous promenez pas, non, surtout restez ici, pas couché, parce que c'est pas respectueux, restez assis et attendez. Et le temps libre de l'après-midi, où je croyais pouvoir un tout petit peu me détendre, consiste à s'asseoir gentiment et à attendre que l'heure passe.
Et comment faire pour que les pensées, justement, de ce que vous aviez accompli dans la journée, ce travail manuel, ou que les pensées de votre passé, ou que la gêne que vous éprouviez sur un plan physique, que ces pensées n'occupent pas votre cerveau? Comment faire?
C'est là qu'il faut une question de temps. Les premières heures, bien sûr, tout ça continue à se débattre et on est très très pris par un cinéma intérieur, toutes sortes d'images, d'idées, de désirs, de regrets qui vous habitent. Mais peu à peu, ça se fatigue. Ce cinéma finit par se ralentir et calmement, finalement, il ne reste plus grand-chose. Et c'est vraiment à l'usure que les choses se font. Et je crois que là, il y a une sagesse assez étrange, mais qu'il faut prendre le temps. Mon maître, pour la méditation, il mettait, du moins à Rome, la première fois que je l'ai vu, il avait pris un verre d'eau dans lequel il a mis un peu de sable, il l'a secoué, et c'était tout trouble. Puis il l'a déposé à côté de lui, et on a commencé la méditation. Et une demi-heure après, il a dit, regardez, c'est un peu comme ça qu'est votre cœur. Quand il est agité, il est tout trouble. Mais laissez-le calmement se décanter, et vous voyez qu'alors il y a la mousse qui monte là, mais qui est de l'écume. Et puis en dessous, il y a la lie qui descend. Et entre les deux, vous voyez la pureté originelle de votre cœur. C'est ça que nous essayons de faire pendant la méditation. Discerner, séparer ce qui est l'écume, ce qui est la lie, et ne pas se complaire, comme peut-être on fait trop souvent en Occident, on dit « Ah, mes péchés !» Mais regardez la pureté qui est merveilleuse. Et on vit dans cette espèce de pureté. On n'ignore pas qu'il y a de l'écume et de la lie, mais on est encore plus conscient de la beauté du cœur s'il est un peu libéré de tous ces attachements.
Dans votre ouvrage, Pierre-François de Béthune, vous insistez beaucoup sur la communion, enfin c'est un mot chrétien, mais enfin, disons le lien qui existe avec les autres moines dans le cadre de ce monastère, à travers le silence. Donc vous avez senti vraiment une circulation profonde de cœur à cœur, comme dirait un bouddhiste, avec les autres moines, bien que vous ne parliez pas le japonais, vous n'aviez donc pas d'échange, ni linguistique, ni intellectuel, ni même peut-être affectif avec les autres.
Oui, mais donc il y a là une paix de complicité ou une connivence tacite. Puisqu'on souffre ensemble, on travaille ensemble, on est ensemble en silence, finalement, il y a sans parole, il y a une grande communauté qui se crée. Et c'était très frappant, j'ai fait d'autres séjours dans un autre monastère, notamment après 15 jours seulement, quand on a quitté ce monastère, on était ému, comme si on quittait des vieux amis, alors qu'on était resté 2 semaines ou même pas. Et donc, le fait de vivre ensemble dans une vie intense, créer des liens beaucoup plus grands qu'on ne le pourrait imaginer.
Mais ces liens existent également dans un monastère bénédictin.
Bien sûr.
À travers le silence.
Mais nous travaillons chez les bénédictins à beaucoup plus longue échéance. Les moines zen qui sont venus dans le monastère disaient, au fond, nous sommes un peu des spécialistes du 100 mètres plat et vous êtes plutôt pour le marathon. Parce que eux, il faut le dire, ils ont une vie extrêmement dure pendant 1, 2, 3 ans. Et puis, ils reçoivent une cure, comme qui dirait un petit temple, où ils ont leur charge, ils n'ont plus tellement de responsabilités, ils n'ont plus tellement de travaux difficiles, etc. C'est-à-dire que nous sommes faits pour durer. Il y a la stabilité monastique qui fait qu'on reste non pas seulement 2, 3 ans, mais 20, 30, 40, 50 ans. Et donc, on a un rythme plus pondéré, mais à la longue, il y a quand même aussi une grande profondeur et dont on parlait donc d'une grande fraternité qui se crée.
Vous étiez moine chrétien dans un monastère bouddhiste. Vous êtes resté moine chrétien. Un moine chrétien prie.
Oui.
Alors vous pouviez à la fois méditer, c'est-à-dire entrer complètement dans le rythme de la vie d'un moine bouddhiste, et en même temps rester pleinement moine chrétien.
Oui, tout à fait.
Alors là c'est une question difficile.
Tout à fait.
C'est un équilibre complexe.
Oui, parce que donc, quand j'étais dans... Il y a de nombreuses heures de méditation silencieuse. Bon, là, il n'y a peut-être pas tellement de problèmes. Mais également dans les heures assez nombreuses aussi de récitation de sutras, dont je ne comprenais bien sûr rien du tout. Mais j'étais en communion intense avec ces priants. Et je priais avec ces priants, non pas avec des mots, parce que les mots étaient incompréhensibles, et je ne faisais pas non plus ma prière à moi parallèlement avec des Notre Père ou que sais-je, mais j'étais vraiment en communion de prière avec eux. y compris dans des prosternations au statut du Bouddha, etc. Ça n'a jamais fait pour moi un problème, parce que mon lien avec Jésus était quand même beaucoup plus profond que tout ça. Et le seul lien que j'avais un espèce de petit un chapelet. J'ai toujours un espèce de chapelet byzantin, comme ça, assez non-violent, en laine. C'était le seul lien que j'avais, un peu comme un cordon ombilical qui me rattachait à mon église. Mais ça, j'utilisais, je l'avais en main, même pendant les temps de méditation. Et c'était le seul lien matériel. Mais ça m'a permis d'approfondir très fort mon rapport à l'Église, qui n'est pas tellement classique peut-être, mais qui est intense et très sincère.
Oui, vous l'aviez en main, mais pouviez-vous réciter des prières chrétiennes pendant la méditation ?
Non.
Non, donc en main, mais sans parole.
Oui.
Oui. La communion ne vous manquait pas ? Moi, un mois de communie dit... tous les jours.
Oui, normalement, mais je vous ai dit, cet aspect ne m'a jamais été très important. Et donc, oui, j'étais content, mais pendant tout ce temps-là, je n'ai pas éprouvé le besoin de vraiment participer aux liturgies chrétiennes. Et je ne suis pas nécessairement un modèle dans ce domaine, mais c'est comme ça que j'étais.
Oui, toute la question est là aussi. Pierre-François Béthune, vous racontez dans votre ouvrage une expérience personnelle, mais en même temps, comme en plus, vous avez eu la responsabilité du dialogue monastique entre les différentes religions, il s'agit de savoir comment ce dialogue, en tout cas entre moines, pas entre théologiens, mais comment ce dialogue peut s'établir. Et là, nous arrivons devant une grande question qui ne peut pas se régler très facilement. Peut-être qu'à travers le temps, on finira par trouver des réponses plus satisfaisantes que celles qu'on trouve aujourd'hui. Comment rester pleinement soi-même ? Vous n'avez pas quitté du tout la religion chrétienne, vous avez même été prieur de votre propre abbaye, vous restez profondément imprégné du christianisme, et en même temps, quand vous parlez du bouddhisme zen, on s'aperçoit qu'il y a une très grande vibration en vous. Alors comment peut-on être les deux à la fois, mon père ?
Je crois que c'est important de faire des bonnes expériences. Je crois que pour ce qui est de la théologie, de la rencontre des religions, pour le moment, c'est un peu difficile. Il y a beaucoup de tentatives, pas toujours heureuses, et je crois qu'on n'a pas fait encore suffisamment d'expériences concrètes pour pouvoir bâtir une théologie dessus. Et ce que j'ai essayé de faire, et ce que j'essaie de faire en tant que responsable pour le dialogue interreligieux des moines, c'est de rendre possible des bonnes expériences pour des moines et des moniales bien préparés, permettre d'aller dans un monastère zen ou indien ou que sais-je, et y vivre dans des bonnes circonstances, non pas avec le confort, mais intensément avec quelques maîtres là-bas qui comprennent. Et si on peut vivre ce genre d'expérience, j'ai pu remarquer que tous ceux, il y en a environ une centaine, qui ont fait cette expérience de séjour dans les monastères, en reviennent renforcés dans leur vocation monastique et vraiment ils deviennent très enthousiastes pour ce genre de choses. Et dans leur monastère, dans leur lieu de vie, ils continuent à développer ce goût pour une rencontre dans les bonnes circonstances. Donc c'est évident que quand on voudrait formuler ça en théorie, c'est assez difficile, ça peut paraître paradoxal. Mais je crois qu'en réalité, c'est quelque chose qui est possible, qui est bénéfique. Et je crois que pour la religion chrétienne, c'est même, c'est pas indispensable, mais c'est vraiment extrêmement salutaire. Si la religion chrétienne peut vraiment rencontrer les autres, que ce soit des autres religions ou des autres philosophies, si elle peut le faire avec générosité et avec courage, elle peut être vraiment rénovée. Hein. Il y a un vieil adage qui dit « Hors de l'Église, pas de salut ». J'aurais envie d'un peu le transformer et de dire « Hors du dialogue, il n'y a pas de salut pour l'Église ».
Vous appelez d'ailleurs cette attitude l'hospitalité sacrée. Donc vous insistez beaucoup sur le mot « hospitalité » et « sacré » parce qu'il s'agit d'un domaine religieux. Pourquoi avoir insisté particulièrement sur le mot « hospitalité » ?
Parce que je crois que l'hospitalité, c'est une tradition qu'on trouve dans toutes les cultures, qui est extrêmement précieuse, qui est partout sacrée, et qui a justement cette particularité d'accueillir l'autre. L'hospitalité, c'est pour l'étranger, c'est pas les membres de la famille, c'est l'étranger, l'accueillir comme tel, en le respectant totalement dans son statut d'étranger, sans volonté de l'assimiler. Et donc, on a là, je crois, un modèle vraiment merveilleux, qui est un accueil magnanime, mais sans volonté d'assimilation. Et aujourd'hui, les problèmes d'intégration, d'assimilation, on voit dans le domaine social, politique, c'est extrêmement difficile. Je crois que le modèle de l'hospitalité, qui est tenu pour sacré dans toutes les religions, devrait davantage nous inspirer. Parce qu'il est à la fois ce qui nous invite à respecter totalement l'étranger, mais en même temps en le respectant comme tel. Et donc ces deux attitudes peuvent paraître contradictoires. Souvent on dit, pour les étrangers, il faut qu'ils deviennent comme nous. Et c'est d'ailleurs comme ça que l'Église catholique a toujours fait. On a voulu faire nôtre les autres, estimant que c'était le plus grand honneur qu'on pouvait leur faire, c'est de les assimiler. Mais je crois que maintenant, et peut-être même au nom de l'Évangile, on fait bien d'un peu revoir cette manière de faire, qui a été un peu celle de tous les missionnaires, dont moi, pendant de très nombreuses années, et de vraiment commencer à respecter totalement l'autre et à se dire que, c'est également typique pour l'hospitalité, qu'au fond, l'hôte, quelque part, est un messager du Seigneur. Et que donc, si on écoute vraiment, respectueusement, un bouddhiste, il a quelque chose à me dire de la part de mon Dieu.
Même s'il ne croit pas en Dieu.
Voilà.
Parce que le bouddhiste ne va pas nier l'existence de Dieu, mais il ne va pas l'accepter non plus.
Non, mais ce qu'il me dit, je peux le recevoir vraiment comme un message qui m'invite à me convertir davantage à l'Évangile. C'est comme ça que je l'ai vécu.
Mais pour vous, le Christ est fils de Dieu et il est venu apporter aux hommes le moyen d'atteindre la vie éternelle.
Oui, c'est, je dis tout à fait à cette présentation du dogme.
Bon, voilà, donc là c'est quelque chose de très simple. Qui fait partie de la base de votre foi. À partir du moment où vous avez le moyen de procurer à quelqu'un d'autre la vie éternelle, vous devriez avoir le désir de le lui transmettre, plutôt que de le prendre tel qu'il est, s'il lui se trompe à vos yeux.
Je crois qu'il y a beaucoup de manières de bien faire. Et je crois que il y a beaucoup de saints païens. Il y a beaucoup d'autres façons d'être sauvés. Comment ? Même le Concile Vatican II, qui s'est penché sur la question, a dit il y a certainement une possibilité d'être sauvé en Jésus-Christ d'une manière que Dieu seul connaît. Ça veut dire que... Et donc, il ne faut pas trop vite vouloir définir les choses à ce niveau. Je crois que la vie éternelle, comme vous dites, elle est ouverte pour tous ceux qui veulent vraiment vivre de la charité, qui sont habités par le même esprit. Donc, je désire vraiment, quand je parle du Christ, j'en parle avec vraiment, pas seulement conviction, mais amour. Je crois que c'est un peu comme dans la parabole de la femme qui a perdu sa drachme et qui la cherche partout et qui finalement, quand elle l'a trouvée, la meute ses voisines pour dire « Réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé la drachme ». Quand je vois quelqu'un, j'aime lui dire « Réjouissez-vous avec moi, j'ai rencontré Jésus ». Mais je ne dis pas « Jésus est le seul chemin et si vous ne le suivez pas, vous êtes destiné à l'enfer ». Ça, c'est tout à fait le Moyen-Âge qu'il faut dépasser. Je crois que autre chose est témoigner de sa joie d'avoir rencontré le Christ, mais je ne vais pas l'imposer. On n'impose pas la joie.
Sans parler d'enfer, il y a une vérité. L'existence de Dieu, et Dieu s'incarne. Si vous tenez une vérité, admettons un scientifique qui a une certitude, la Terre est ronde, il a envie de le dire aux autres. Donc vous avez envie de dire, Dieu est Dieu et Jésus est le Fils de Dieu.
Oui.
Et là, je vous sens en retrait par rapport à ce désir d'apporter aux autres la réponse qui vous fait vivre.
J'ai envie de dire aux autres que Dieu les aime. Que ce soit maintenant en envoyant son Fils, comme nous le savons, ou s'il l'ignore d'une autre façon, je n'insisterai pas là-dessus, d'autant plus que l'histoire des chrétiens dans le reste du monde est extrêmement chargée, qu'on a énormément à se faire pardonner et qu'il vaut peut-être beaucoup mieux, beaucoup plus se taire, parce qu'on est très mal vu. Donc, indépendamment de ces raisons, je dirais, un peu pratiques, je crois que c'est vraiment important, à la fois qu'on voit, je prends un exemple évidemment un peu extrême, mais la mère Teresa, il était évident qu'elle était habitée par un grand amour pour Jésus. Mais tous se reconnaissaient en elle, parce qu'ils voyaient qu'elle était habitée par cet amour et qu'elle le répandait spontanément, elle ne pourrait pas faire autrement. Je crois que ça, c'est la manière de rayonner sa conviction. Mais quand on a une définition, que celle du credo, Dieu le Père qui envoie son Fils pour sauver les hommes qui sont dans le péché, etc., là, personnellement, j'y crois, mais je ne crois pas qu'il faut communiquer ça. Parce que ça, c'est une manière déjà, je dirais, oui, à nous, de représenter la réalité, mais peut-être que pour d'autres cultures, cette même expression fondamentale qui est au cœur de l'Évangile leur vient d'une autre façon.
On peut tomber dans le relativisme, ce qui est à l'heure actuelle condamné justement par l'Église.
Oui, je sais. Mais si on vit les choses à un niveau profond, dans une grande communion des saints, avec tous les saints, qu'ils soient chrétiens ou pas, si on vit les choses à un niveau de la prière la plus profonde et de l'engagement le plus profond, ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir peur du relativisme. On est en relation et on voit que les choses sont en relation et on voit que les choses sont à leur place. Et donc, il y a d'autres choses, il y a d'autres saints, il y a d'autres présentations. Mais ce n'est pas pour ça que le fait de les mettre en relation n'est pas pour autant les diminuer, les ravaler au sens, au niveau de quelque chose parmi d'autres. Je ne peux pas dire que la religion chrétienne, c'est une parmi d'autres et qu'elle est bonne, mais qu'il y en a d'autres qui sont aussi bonnes. Personnellement, je sais que c'est la meilleure. Mais au nom de la charité chrétienne, je ne veux d'aucune façon imposer mes convictions aux autres.
Vous le savez, mais vous ne voulez pas le transmettre de cette façon-là.
Parce que je sais que le transmettre ainsi, ce serait la déformer.
Je pense, mon père, que vous devez vous sentir seul au sein de l'Église.
Non.
Vous n'êtes pas très nombreux à dire ce que vous dites.
Je crois que beaucoup n'osent pas le dire, mais je crois que beaucoup le sentent, beaucoup le pensent. Et comme je vous disais, au niveau de la formulation théologique, on est encore dans les balbutiements. Et ceux qui se risquent à le dire de façon plus explicite, souvent exagèrent. Et quand on pense à ces théologiens qui ont été comme Paul, John Hick ou Paul Nitter ou même Raymond Panikkar, quand ils ont formulé les choses, ça grince parfois. Alors moi, je ne suis pas un grand théologien, mais je suis quelqu'un qui essaye de faire une expérience chrétienne. Et au nom de cette expérience chrétienne, je dis un certain nombre de choses qui sont des matériaux grâce auxquels on pourra peut-être un jour formuler mieux. Mais il ne faut pas être trop rapide, parce que avec des siècles et des siècles de fermeture derrière nous, ce n'est pas en 30 ans ou 40 ans qu'on va une fois ouvrir l'horizon de l'Église.
Et bien, l'horizon a été grand ouvert en 1986 par Jean-Paul II aux rencontres d'Assise, oui, auxquelles vous avez assisté, là, vous y avez participé activement, oui, etc. Mais depuis, on sent que la porte ne s'est pas complètement fermée, mais elle s'est quand même bigrement rétrécie.
Oui, mais on a un pied dans la porte et on ne sait plus la fermer. Je crois qu'il y a une brèche, si on peut prendre une autre image, il y a une brèche par laquelle s'infiltre une expérience et qu'elle va finir par réouvrir. Ils ont beau essayer de fermer, pour des raisons que je respecte, le mouvement est lancé. Et il y a un grand nombre de chrétiens qui ont fait des expériences de rencontres profondes avec d'autres religions. Et leur expérience peu à peu fait boule de neige et trouvera une formulation peut-être moins difficile à supporter pour ceux qui sont tout à fait attachés à la doctrine. Mais je crois que j'ai vraiment confiance que les expériences chrétiennes profondes, faites dans la prière, faites dans le respect, faites au nom de l'Évangile, font leur chemin, continuent à irriguer le corps de l'Église, même si officiellement elle ne le reconnaît peut-être pas. Il continue à irriguer le corps de l'Église, à le rendre plus souple et peut-être plus humain et plus évangélique.
Il faudrait du répondant aussi de l'autre côté. On en trouve du côté des bouddhistes, notamment des bouddhistes tibétains, du côté du Dalai Lama. On en trouve moins, très peu, du côté des intégristes hindous et pas du tout du côté des intégristes musulmans. Pas plus d'ailleurs que du côté des intégristes chrétiens ou intégristes juifs. Mettons-les tous sur le même plan de fermeture. Je ne dis pas que théologiquement c'est la même chose. Mais on sent quand même, depuis ces magnifiques rencontres d'Assise, je reviens à ma question, on sent un durcissement de tous les côtés, côté chrétien comme côté des autres religions.
Oui, je crois que c'est une évolution qui a les hauts et des bas, mais donc il y a un point de non-retour qui est très évident. Et pour ce qui est de la réciprocité, c'est une question qui revient souvent, où on dit, mais enfin, les autres ne font pas autant d'efforts que vous. Je dis, lisez l'Évangile. Le Christ dit, quand vous invitez quelqu'un, ne vous préoccupez pas de sa capacité ou non de rendre la même chose. Donnez sans arrière-pensée. Donc, on donne, on s'ouvre, on écoute et on n'attend pas que eux fassent de même pour continuer, parce que ça serait pas évangélique et ça serait pas humain d'avoir cette espèce de réticence. Donnant. Non, il faut donner.
D'une certaine manière, mon père, vous opposez l'Évangile à l'histoire de l'Église.
Ah, bien sûr. Bien sûr, l'histoire de l'Église. L'Église a maintenu l'Évangile, elle a fait énormément pour que l'Évangile reste vivant et soit appliqué. Et en même temps, elle a fait beaucoup de choses qui étaient contraires à l'Évangile. Et c'est normal, c'est humain. Il ne faut pas faire trop de reproches, mais il faut avoir la liberté de relire l'Évangile aujourd'hui et de faire la part des choses et de dire qu'il y a des choses qui ont été faites dans l'Église qui étaient absolument contraires à l'Évangile et qu'il faut totalement récuser. D'ailleurs, le pape lui-même, en 2000, il a fait une confession publique pour demander pardon pour tous les torts de l'Église qui sont également très... très considérable. L'Église a fait énormément de bien, mais il faut reconnaître tous les torts qu'elle a faits, qui sont quand même assez terribles.
Donc vous n'avez aucune crainte pour l'évolution du dialogue ?
Non, absolument aucune, parce que c'est un mouvement, et je crois qu'il est vraiment habité par l'Esprit de Dieu, c'est un mouvement inéluctable, et c'est pas triste, c'est au contraire une chance. C'est une chance inouïe, je crois, pour toutes les religions. Non pas qu'elles vont arriver à un mélange, une paix de super religions qui serait je ne sais pas quoi, mais que chacune sera mise au défi d'être vraiment fidèle à elle-même en rencontrant les autres.